Biodiversité on Air, un magazine proposé par la CORLAB, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Effacer et renaturer certains étangs ou plans d'eau en Bretagne, c'est parfois l'unique solution pour préserver les ressources en eau, les milieux aquatiques et donc la biodiversité. Avant d'en parler dans un instant avec notre invité, Jérôme Martin de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, direction le pays de Brocéliande, plus précisément la commune de Concoret, qui a décidé, il y a quelques mois, d'effacer et de renaturer son étang communal. C'est un reportage signé Loïc Lehir de Timbre FM, votre radio associative à Augan et dans le pays de Pleuhermel.
Bon, allons-y.
Là, je m'y suis.
Je m'y suis, madame. Allons-y.
Donc le CPIE Forêt de Brocéliande, on est une association d'éducation à l'environnement. Donc ça, c'est le cœur du métier depuis 1988. Mais depuis 2002, on accompagne aussi les collectivités sur le territoire, sur des démarches environnementales. Et donc aujourd'hui, on accompagne le réseau rural breton qui a mis en place un cycle d'animation sur le paysage. Donc on s'est porté volontaire pour proposer une animation sur cette thématique-là. Et il se trouve qu'à Concoret, on profite aussi d'un projet de la commune qui a abouti à l'effacement d'un étang communal. Et le CPIE, dans ce contexte-là, accompagne la commune pour l'appropriation des habitants sur l'aménagement du paysage qui a changé, en fait. Et aussi un suivi du milieu en termes d'écologie par rapport à l'élaboration d'un plan de gestion qui va être arrivé, je ne sais pas, cette année ou l'année prochaine. Donc l'étang à Concoret est un étang artificiel, un étang sur cours d'eau, contrairement à d'autres étangs qu'on pourrait creuser, qui n'ont pas forcément alimentés par des cours d'eau. Il a été créé dans les années 60 pour le loisir, pour la pêche, il y avait une plage à Concoret. Et depuis quelques années, en fait, il s'en vasait. On avait presque un mètre de vase au fond de l'étang, ce qui amène en fait une faible oxygénation de l'eau. Une problématique, c'est que les populations de poissons qui arrivent dans l'étang se retrouvent coincées en fait, dans l'étang et dans la vase, et meurent forcément, alors que l'étang est ouvert, il y avait une buse. Et donc il y a plusieurs scénarios qui ont été imaginés, soit enlever la vase, soit remettre les eaux libres du ruisseau. Donc on dit remise en eau libre du cours d'eau. C'est-à-dire qu'en fait, le cours d'eau, qui est le ruisseau d'Isouette, a repris son lit tel qu'il était avant les années 60, avant la construction de l'étang.
En 2014, moi, quand j'ai été élu maire, l'étang était effectivement en train de surboucher, surfermer. Et puis j'avais sollicité la police de l'eau pour voir en quelle mesure ils pouvaient nous aider à le désenvaser. Et la police de l'eau m'avait dit gentiment, non, on ne va pas vous aider. Par contre, si vous voulez le supprimer, on peut vous accompagner.
Alors c'est vrai que quand on prend les choses de manière assez pragmatique, qu'on nous dit que l'étang est en train de s'envaser, que l'eau est chaude parce qu'on est dans un étang, donc des cyanobactéries, de l'évaporation. Le nombre de kilomètres qu'il faut quand on se reconnecte au ruisseau pour que la température de l'eau redevienne normale. Le côté un petit peu, je dirais, mythique, on se dit pour éviter les inondations, c'est bien d'avoir un étang, ce qui est complètement faux parce que si on prend les choses physiquement, un étang c'est plein, c'est à radeau, donc à la limite, dès qu'il y a une goutte d'eau qui tombe dedans, elle va dans le ruisseau. Donc on avait effectivement des problèmes de route qui étaient inondés. Voilà, donc fort de tous ces arguments, on a lancé la réflexion. Alors ça n'a pas été simple de faire accepter ça au niveau du conseil municipal dans un premier temps. Au niveau de la population, ça a même été compliqué, parce que même des personnes qui se défendent de valeurs écologistes disent « mais c'est n'importe quoi de supprimer des temps ». Mais quand on explique les choses, en fait, ce n'est que quelque chose de complètement artificiel, puisqu'il a été fait. Et on ne fait que revenir à ce qui était à l'origine, c'est-à-dire un cours d'eau avec une zone humide. En fait, c'est devenu une évidence. Alors, il y avait quelque chose qui faisait que les gens venaient autour de l'étang depuis plusieurs années, c'est à l'origine le chemin buissonnier, puis ensuite le parcours d'art, qui est fait par le CPE tous les ans, et c'est la thématique de l'année dernière, c'était la renaissance. Effectivement, ça renaît, parce que le cours d'eau reprend sa place, reprend sa vie. Moi, j'ai envie que ce soit, et le CPE bien évidemment aussi, je pense, mais un lieu pédagogique, un lieu de découverte, un lieu de se rendre compte qu'on peut, en tous les cas, sensibiliser à la remise en naturation d'un espace. Donc, on avait fait une estimation à la louche de supprimer l'étang. Alors déjà, premièrement, réglementairement, on ne pouvait pas parce qu'il y a un cours d'eau qui passait dedans. Et deuxièmement, on avait des fourchettes entre 300 et 500 000 euros. Et la suppression de l'étang a coûté à la commune 0 euros. Voilà.
Grosso modo, c'était environ sur du 50% agence, 20 départements, 10% région et 20% de migrants bassin d'Oust.
Donc Arnaud Chollet, service de l'eau, département du Morbihan. Donc au niveau du département, en gros le Morbihan, c'est 10 000 km de cours d'eau. Toute la partie ouest est en très bon état, donc il n'y a quasiment plus financement de l'agence de l'eau, du département encore un petit peu moins. Et la partie est est en très mauvais état. Là où on est, dans les parties en très mauvais état. Donc là-dessus, on a des subventions au maximum parce qu'il faut retrouver tout ce qu'on fait là. C'est intéressant, mais ce n'est pas pour le plaisir simplement de le faire. C'est qu'on a un objectif sur les masses d'eau, sur le grand bassin de l'Oust, qui sont en 2027. On doit retrouver un bon état écologique, biologique et un tout petit peu chimique des eaux pour 2027. Donc on avait fait un diagnostic complet de tous ces bassins versants, avec les problèmes de cours d'eau qui ont été tirés droit, d'abreuvement, enfin toutes ces choses-là, de continuité. Et l'aspect étang est aussi une grosse problématique, parce que ça vient, comme disait M. le maire, réchauffer, un problème de quantité, de qualité. Les gens pensent que d'avoir un étang, ça permet d'avoir de garder de l'eau. C'est une idée fausse de croire qu'on garde de l'eau, l'eau s'évapore. En gros, on est à 4 litres par seconde par hectare en plein été, quoi. Donc c'est énorme. Par contre, ce qui garde bien de l'eau, c'est une zone humide. Bref, en gros, on a un étang tous les 2-3 km. Grossièrement, on a 5000 plans d'eau sur le Morbihan. Alors, des petits, des grands, mais c'est toujours l'impact où ils sont. En l'occurrence, un plan d'eau comme ça qui fait à peine un hectare sur un petit cours d'eau, il a un impact énorme. Donc le Morbihan et l'agence de l'eau, on accompagne les maîtres d'ouvrage et les élus à essayer d'aller vers ces suppressions, enfin, cette restauration hydromorphologie des étangs. Dans la plupart des étangs, dans les années 80, ils ont été créés dans les sur les communes où on avait l'étang, le terrain de tennis. Le terrain de tennis et le camping. Années 80, ça c'est l'aménagement, le package complet pour les communes. Donc ça a duré 20-30 ans. Et l'étang, lui par contre, il finit par avoir une fin de vie, comme disait monsieur le maire. Maintenant, on accompagne les maîtres d'ouvrage à restaurer le cours d'eau. Donc en fait, c'est pas compliqué. Hein. On ouvre la digue et le cours d'eau, souvent quand c'est bien fait, il retrouve son lit originel. C'est ce qu'il y a le cas maintenant.
C'est ce qu'il a fait.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment la restauration, ce qu'on appelle écologique plutôt passive. Donc il y a maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il y a à la fois un courage politique à avoir. Un appui du département de l'agence de l'eau, des maîtres d'ouvrage comme le syndicat du Romassin de l'Oust. C'est pas un problème technique, c'est vraiment un problème de volonté. Il faut vraiment qu'au niveau des élus, ça fonctionne. Quoi. Leur dire que bien des étangs, si on les garde, vous dites c'est 500 000 euros financés à zéro. Quand on fait une restauration hydrologique, hydromorphologique, c'est quasiment 80% de financement avec l'accompagnement. Et maintenant, par contre, là on a restauré le milieu. Maintenant, c'est à vous d'avoir les choses en main. Effectivement, l'idée c'est bien de pouvoir réussir à rentrer dans la zone humide. Pour qu'il y ait un passage qui se fasse.
Nous, CPIE, notre cœur de métier, c'est l'animation auprès des scolaires, mais du grand public. Donc, c'était tout à fait pertinent, en fait, de travailler avec les écoles pour proposer un suivi de ce milieu, au-delà de la technique qu'on peut avoir, comme Lisa avec son master ou les techniciens du GBO. En tout cas, on ajoute aussi la dimension participative, donc des habitants, et de l'appropriation de cet endroit-là, qui est un de nos objectifs. Au-delà de suivre le milieu écologiquement, c'est de voir comment les gens s'approprient ce changement de paysage. Donc le CPIE, on faisait déjà plusieurs petites actions par rapport à cet endroit-là. Donc on a mentionné le chemin bitionné et le parcours d'art. Donc on essaye de porter la thématique sur ce qui se passe sur la commune. Et donc on a proposé de suivre le milieu avec les écoles de Concorée. Donc c'est une démarche qu'on avait expérimentée à Port-Carreau. Et donc on a renouvelé à Concorée, forte de notre expérience là-bas. Donc ça implique aux élèves de devenir des scientifiques le temps d'une demi-journée. Et ça nous permet aussi, nous, d'évaluer, alors grossièrement, hein, bien sûr, sur ce qu'on peut observer par rapport à l'année précédente. Donc ce qu'on va suivre avec les enfants, ce sont 4 critères assez simples à mesurer, en tout cas pour eux. Donc ce sont des protocoles scientifiques, hein, par contre, qui existent. Ils sont juste un petit peu simplifiés. Donc il y a la température, que ce soit de l'air et de l'eau. Il y a le colmatage. Donc là, en fait, on va regarder un petit peu l'état du cours d'eau et notamment le niveau d'envasement. On va regarder aussi si le milieu s'enrichit en oxygène. Et ensuite, on va regarder globalement l'évolution du paysage par de la photo.
Voilà pour ce reportage tourné sur la commune de Concorée, du côté de la forêt de Brocéliande. Reportage signé Loïc Lehir de Timbre FM, votre radio associative à Augan et dans la région de Plohermel. Alors pour aller plus loin sur ce sujet, nous sommes en liaison à Radioactive près de Saint-Brieuc avec Jérôme Martin, chef de service espaces ruraux à l'agence de l'eau Loire-Bretagne, délégation armorique. L'agence de l'eau qui est un établissement public du ministère de la Transition écologique. Jérôme Martin, bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, comment réagissez-vous au reportage qu'on vient d'entendre et qui fait intervenir le CPIE Brocéliande, mais également le département du Morbihan et puis également le maire de la commune de Concoret ?
Moi, je réagis de manière enthousiaste. Parce que je suis très heureux en fait, d'entendre tous ces témoignages autour d'un projet fédérateur dans une commune, qui est la commune de Concoret. Et puis, également enthousiaste face à ce pari réussi, parce que le pari n'est pas toujours gagné. C'est un sujet délicat. Le maire a rencontré une certaine opposition, manifestement, grâce à un effort de vulgarisation des différentes connaissances scientifiques sur le sujet, on arrive à obtenir en fait l'adhésion de la population donc, autour d'un processus de concertation. En tant que représentant de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, on est satisfait d'avoir financé à la fois l'éducation à l'environnement qu'a réalisé le CPIE de la forêt de Brocéliande, et puis également le financement de ces actions, de cette action qui est bénéfice pour l'environnement et bénéfice pour l'environnement de la masse d'eau, du cours d'eau qui passait dans cette étang de Concoret.
Alors justement, vous parliez des difficultés parfois à convaincre sur ce type de projet. C'est pas forcément évident de toujours faire accepter un tel projet d'effacement d'un étang, d'un plan d'eau aux populations et même aux acteurs écologiques locaux. Quels sont pour vous les arguments forts justement qui peuvent justifier justement l'effacement d'un tel plan d'eau et qui vont surtout dans le sens de la protection ou de la renaturation de la biodiversité ?
En fait, c'est assez compliqué à faire entendre parce que c'est la résistance au changement. Au changement, c'est-à-dire les gens ont l'habitude de voir un miroir d'eau, un plan d'eau, et ils sont habitués à voir ça. Mais il faut leur expliciter que, d'abord, la plupart des plans d'eau qui sont actuellement présents en Bretagne sont des plans d'eau relativement récents, qui ont été créés, comme dans celui de l'étang de Concoret, dans les années 60. C'est quelque chose qui a été créé relativement récemment. Et qui a ces ouvrages ont des impacts sur l'activité biologique des cours d'eau qui est très importante, à la fois bien sûr en termes de continuité des espèces, ça a bien été expliqué, les poissons ont du mal à franchir ces obstacles, d'autre part ces plans d'eau s'envasent au fil des ans, c'est le processus naturel, ils s'envasent, et on a une modification du cortège d'espèces qui habitent finalement ces milieux-là, et on a un réchauffement de cette masse d'eau qui, provoque une eutrophisation de ces plans d'eau. Et on voit bien qu'on arrive à convaincre au travers de différents arguments, notamment pour ceux qui ont un usage public, avec notamment voile ou baignade, les blooms de cyanobactéries qu'on peut observer, interrogent, limitent les utilisations potentielles, ce qui fait que ça, les acteurs commencent à réfléchir autour du devenir en fait de ces lieux-là. Donc c'est bien par la vulgarisation pour expliciter l'impact environnemental négatif que peuvent avoir ces ouvrages qu'il faut mettre en œuvre, quoi, voilà.
Si je comprends bien, c'est véritablement l'ancienneté par exemple d'un étang ou alors son mauvais entretien qui peuvent justifier que l'étang est plus produit plus d'effets négatifs que d'effets positifs sur la biodiversité locale.
Ouais, souvent on arrive à convaincre comme ça, en expliquant que finalement, il suffit de sortir des photos aériennes des années 50 pour montrer qu'en fait l'étang, il n'existait pas en fait à l'époque. C'est une création récente en fait, et c'est pas une création naturelle, voilà. Donc ça, les gens, ils sont assez sensibles à ça. Et c'est là l'intérêt de proposer en fait des visuels comment c'était avant, comment c'est maintenant et comment ça pourrait être après un réaménagement possible. Ça permet aux gens finalement de se projeter dans l'histoire du lieu et de mieux comprendre en fait ce qui a été fait et l'évolution.
Oui, parce que pour les habitants, les riverains, souvent ces étangs, ils sont inscrits dans leur paysage de tous les jours. Même certains peuvent dire qu'ils font partie du patrimoine local ou régional. C'est souvent aussi des espaces de détente, de loisirs. Est-ce que quand un étang est en mauvais état de conservation, il ne serait pas plus facile finalement, plus simple de simplement essayer de le restaurer plutôt que de l'effacer? Parce que l'effacement peut provoquer forcément une réaction un peu épidermique.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais néanmoins, il faut. Nous, ce qu'on essaye de promouvoir, hein, notamment au travers des financements des bureaux d'études qui mènent ces études pour les effacements des plans d'eau, c'est de bien. Comment dire, on fait ce qu'on appelle des scénarios, en fait, hein, derrière, de modification de l'usage du lieu, divers et variés. Il y a différents scénarios possibles. Alors après, tout dépend de la configuration topographique, de l'utilisation des présences des maisons d'habitation éventuelles, qui seraient éventuellement sensibles à des phénomènes d'inondation. Enfin, il y a X cas de figure, mais ce qu'on leur demande, c'est toujours de produire, en fait, des images des lieux pour chacun des scénarios, pour que les gens puissent bien se projeter sur l'après et qu'on sorte un peu finalement des discours un peu préconçus. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit. Une fois en réunion, il y avait une dame qui était farouchement opposée à l'effacement de son plan d'eau communal, et puis je lui ai posé la question de savoir depuis combien de temps elle habitait sur la commune. Elle habitait depuis 25 ans sur la commune. Et là, je lui dis, en fait, le plan d'eau, il a 30 ans, en fait. En fait, le plan d'eau, il a été créé juste avant que vous arriviez dans la commune. Vous aviez l'impression, vous avez l'impression qu'il a toujours existé, mais en fait, c'est pas le cas, en fait, voilà. Et là, les gens, quand on leur dit ça, commencent à se dire, oui, finalement, peut-être que... Parce que quand vous me posez la question sur des étangs qui font partie du patrimoine régional ou local, il y a quand même différentes catégories de plans d'eau. Il y a des plans d'eau qui sont de création très récente, qui sont la majorité des plans d'eau. Et effectivement, il y a des plans d'eau qu'on peut considérer comme des plans d'eau patrimoniaux qui existent depuis beaucoup plus longtemps et qui ont une histoire et donc un patrimoine que là où on peut effectivement réfléchir peut-être différemment. Ouais.
Après, il y a des habitudes visuelles, le fait de sentir qu'on a un plan d'eau à côté de chez soi. Pour être clair, est-ce que c'est plus coûteux finalement de restaurer que d'effacer un plan d'eau? Si on voulait restaurer un plan d'eau au mauvais état, est-ce que ça coûte beaucoup plus cher que de l'effacer tout simplement?
Dans toutes les études qu'on fait, à chaque fois on finance des études préalables, hein, pour toutes ces questions de réaménagement de plans d'eau, il y a effectivement la question de la restauration et donc finalement du désenvasement. Cette solution est toujours plus coûteuse. Oui, bien sûr, toujours plus coûteuse.
Alors, en tout cas, dans cette stratégie, certains vous diront aussi... il y avait une biodiversité qui s'était créée avec ce plan d'eau. Même si elle est aujourd'hui dégradée, on remplace cette biodiversité par une autre. Quelles sont les contraintes, les techniques qui permettent de réussir justement cette transition? Est-ce que c'est compliqué finalement de remplacer une biodiversité même dégradée par une autre nouvelle censée être meilleure?
Ah oui, c'est assez complexe. C'est-à-dire que la phase de travaux est toujours à manier avec précaution et elle peut s'étaler sur un pas de temps qui peut être de plusieurs années. Hein. Là, le mois dernier, on est allé inaugurer la fin des travaux pour l'effacement de barrage. Un barrage Kergoganeat qui se trouve dans le Finistère Nord, sur le Keralay. On avait un barrage qui faisait 7 mètres et demi de haut, qui était entièrement envasé. Vous imaginez bien qu'on a dû prendre des précautions extrêmes pour abaisser progressivement le niveau du barrage. Ça a duré plus de 2 ans. Et donc, à chaque fois, il y a des précautions qui sont prises pour éviter un départ un trop important des vases qui sont contenus dans l'étang à l'aval, qui pourraient colmater, hein, c'est ce qui a été dit notamment dans le reportage. Le colmatage est extrêmement néfaste à la biodiversité des cours d'eau. Il y a également des précautions à prendre pour retrouver une pente naturelle au cours d'eau, parce que entre le point haut et le point bas, entre l'entrée et la sortie de l'étang, des fois c'est des très grands étangs, il y a un dénivelé qui est très important, il y a nécessité peut-être de retravailler, vous voyez, la pente du cours d'eau, des fois, on arrive à des solutions, on va reméandrer le cours d'eau, c'est-à-dire lui faire faire beaucoup plus de boucles que peut-être il pourrait avoir naturellement, pour essayer de favoriser la dépollution, entre guillemets, naturelle du cours d'eau, c'est-à-dire qu'un cours d'eau est capable d'abattre une partie des concentrations en nitrate s'il a une succession de phases rapides et de phases lentes. Donc il y a tout ça à travailler, et donc en même temps de réinstaller une biodiversité beaucoup plus intéressante que celle qu'on pouvait avoir avec un plan d'eau qui finalement se trophise au fil des années.
Donc ce qu'il faut bien expliquer, c'est que dans ces projets-là, on ne se contente pas d'effacer simplement un plan d'eau. Il y a toute une stratégie, une réflexion sur la renaturation des lieux pour qu'ils retrouvent finalement un état beaucoup plus naturel qu'avant. C'est bien ça?
Oui, exactement. Ouais. Exactement, c'est-à-dire qu'on va, on va essayer de retravailler le site en essayant, bien sûr, de retrouver un cours d'eau le plus naturel possible, hein, comme il pouvait y avoir autrefois, hein, mais on peut aussi y installer des mares sur le côté, recreuser des mares pour favoriser là une autre type de biodiversité, avec des amphibiens peut-être particuliers, faire des refuges de biodiversité avec des mares, avec du boisement également, et puis nécessité peut-être aussi de s'intéresser aux parcelles agricoles qui jouxtent en général ces espaces naturels pour éviter les phénomènes d'érosion de sol et d'éventuels flux polluants qui pourraient arriver du parcellaire agricole. Donc il y a bien l'intégralité de l'espace à prendre en considération dans ces projets de réaménagement pour faire en sorte que finalement on retrouve des milieux naturels aquatiques qui soient les plus satisfaisants possibles en termes de fonctionnement.
Alors Jérôme Martin, là on est parti avec ce reportage sur cet exemple précis de Concoret, de l'effacement d'un étang sur la commune de Concoret, près de la forêt de Brocéliande. De façon plus générale, si on pouvait dresser un tableau, une photographie aujourd'hui de l'état de nos étangs et plans d'eau en Bretagne, qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet ?
Globalement, la Bretagne, elle est divisée en deux. C'est-à-dire que la partie est, quand on découpe la Bretagne sur une ligne entre Saint-Brieuc et Vannes, la partie est est en très mauvais état d'un point de vue écologique, hein, toutes les masses d'eau et notamment les plans d'eau, et la partie ouest est dans un meilleur état, beaucoup plus favorable.
Qu'est-ce qui explique cela ?
Ce qui explique cela, c'est tout simplement l'activité humaine. C'est, vous avez la zone centrale de la Bretagne, qui est dans le Finistère, des Côtes d'Armor et le Morbihan, qui est très préservée, qui a été beaucoup moins remaniée par l'activité agricole, notamment. Et donc, vous avez un fonctionnement des cours d'eau qui est resté beaucoup plus naturel et qui a beaucoup moins été transformé. On a eu une activité anthropique, une activité humaine, hein, qui a été très très forte sur la partie est et sur le littoral de la Bretagne, et ce qui explique en fait finalement ce mauvais état. Et pour ce qui est des plans d'eau, il suffit de regarder la presse, hein, régulièrement, vous apercevez par exemple que vous avez des manifestations sportives qui sont prévues, hein, diverses et variées, de la natation en eau libre, des épreuves de triathlon, enfin, qui se passent dans l'eau, dans les différents étangs. Vous apercevez que, bien souvent, au cours de l'été ou à la fin de l'été, ces manifestations sont annulées par des phénomènes de développement de bloom de cyanobactéries, par exemple, ce qui montre bien l'anthropisation de ces étangs et la difficulté à concilier un usage loisir à toute période de l'année, quoi.
Alors justement, ces étangs, généralement, ou ces plans d'eau, ils peuvent appartenir à des communes, mais aussi ils peuvent appartenir à des particuliers. Est-ce que dans les deux cas, il y a des obligations réglementaires pour les propriétaires de ces étangs, qu'ils soient publics ou privés, pour l'entretien de ces étangs et pour empêcher justement qu'il n'ait pas d'impact sur la ressource et la qualité des eaux avant même de penser à imaginer les effacer, les renaturer ?
Bien sûr. Alors, bon, vous avez d'abord la loi sur l'eau, hein, le code de l'environnement qui régit tout ce qui est création, remplissage, curage ou vidange de plans d'eau. Premier point. Deuxième point, vous avez les barrages, parce que qui dit plan d'eau dit en général barrage. Donc vous avez aussi une réglementation à respecter au titre de la sécurité publique, hein, en cas de, bien sûr, de risque sur le barrage et d'inondation à l'aval. Et puis vous avez aussi des questions sanitaires dès que vous avez des plans d'eau à usage loisir, avec une surveillance à avoir, notamment sur les blooms de cyanobactéries que j'évoquais précédemment.
D'accord. Est-ce qu'on peut citer, Jérôme Martin, peut-être pour presque terminer cet entretien, d'autres projets emblématiques d'effacement ou de renaturation d'étangs ou de plans d'eau qui ont été menés en Bretagne ou qui sont en cours, par exemple, aujourd'hui ?
Il y a deux exemples qui me viennent à l'esprit. Il y a celui que j'évoquais juste avant, qui est celui de l'arasement de la digue de Kargona des Déac. Alors j'ai du mal à prononcer toujours
oui,
ce
facile.
Nom.
Hein. Oui.
Oh là là, non, oui. Ça, j'ai beau répéter, c'est difficile. Donc ça se trouve sur le ruisseau du Kiralé, on est dans le Finistère Nord. Hein. C'est un très beau projet qui a permis de rétablir la continuité écologique, hein, sur ce cours d'eau, qui est un cours d'eau piscicole de première catégorie. 2 ans pour abaisser le niveau du barrage, pour ne pas provoquer de catastrophe environnementale par le départ des vases à l'aval. Un projet quand même ambitieux, hein, financièrement parlant, j'entends, 360 000 euros. Et puis, notre ordre d'idée, un projet qui est en cours, hein, du côté de Bécherel, en Ille-et-Vilaine, avec 5 effacements d'étangs. Comme on voit souvent, c'est pour ça que je parle de ça, c'est plein de petits étangs qui étaient en chapelet, hein, qui appartenaient au même propriétaire privé, et puis qui a fait le choix de d'effacer ces 5 plans d'eau qui étaient en série. Donc, en fait, il y a une renaturation complète du cours d'eau. Il y a eu des travaux de remaniement tout autour des plans d'eau. Et puis, actuellement, il y a les travaux de plantation, parce qu'il va y avoir des plantations d'arbres qui vont être faites à la place. Et donc, on va avoir une recréation d'une zone humide assez importante, avec une plantation bocagère intéressante qui va permettre de protéger la zone humide des flux polluants qui peuvent arriver des parcelles agricoles limitrophes. Donc c'est pour nous un projet vraiment emblématique. Emblématique parce qu'on arrive à remodeler ce qu'on appelle une tête de bassin versant, c'est-à-dire le début d'un cours d'eau, pour lui redonner un fonctionnement hydrologique beaucoup plus naturel, à la fois une zone humide qui va permettre de stocker de l'eau, et puis en même temps une zone humide qui va tamponner les flux polluants pour l'aval du cours d'eau.
Alors, on parlait tout à l'heure rapidement de l'implication citoyenne. Pour terminer, pour que nos auditeurs puissent, ben justement, au-delà de cet entretien que nous avons aujourd'hui, s'informer sur cette question importante de l'entretien et puis des stratégies d'effacement et de renaturation des étangs, est-ce que vous pourriez nous indiquer quelques références, sites internet ou ouvrages de référence qui permettent d'encore mieux comprendre cette problématique et cette thématique ?
Eh bien, en travaillant à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, je vais vous parler du site de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.
Forcément.
Évidemment, où vous allez pouvoir retrouver à la fois toute une documentation spécifique sur le sujet, et puis surtout des exemples concrets qui ont été financés, réalisés. Et puis vous avez également la documentation intéressante sur le site de l'OFB, hein, l'Office français de la biodiversité, où vous allez, les gens vont pouvoir également découvrir en fait les tenants et les aboutissants sur cette question qui, le reportage l'a bien montré, on est un peu sur des idées préconçues, on pense qu'un étang est beaucoup plus favorable pour des tas de critères, inondation, préservation, stockage d'eau, et alors qu'en fait c'est finalement un peu contre-intuitif.
Jérôme Martin, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chef de service espaces ruraux à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, délégation armorique. Le site internet de l'Agence de l'eau, où vous nous conseillez effectivement de trouver de nombreuses références et explications sur la ressource et la qualité des eaux en Bretagne, le site c'est agence.eau.fr. agence-de-l'eau-loire-bretagne.fr ou simplement vous tapez Agence de l'eau dans un moteur de recherche. Merci également à David Morvan de Radioactive, votre radio associative de la région de Saint-Brieuc pour l'établissement de ce duplex. Toutes les émissions de Biodiversité On Air sont à réécouter sur le site de la Corlab, rubrique podcast, émission Biodiversité On Air. À très vite pour un nouvel épisode de notre magazine dédié aux actions en faveur de la biodiversité en Bretagne. Et d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité On Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.